le seul débat des présidentielles dans les Alpes du Sud, avec Alpe 1, en partenariat avec le Dauphiné Libéré, la Provence et Haute-Provence Info.
Soirée présidentielle sur Alpe 1.
Ah, monsieur Léo Walter, s'il vous plaît bien, pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, je voudrais d'abord dire que nous, on prévoit plus de dépenses supplémentaires, mais on prévoit aussi plus de recettes supplémentaires. Je suis très heureux de la mise au point de Madame Martinez, parce qu'il me semble que le programme de Monsieur Fillon est clairement établi aujourd'hui devant vous, et que ça permettra à tout le monde de faire son choix. Je suis heureux aussi d'entendre Monsieur Giraud dire qu'il regrette son choix sur le CICE, ou en tout cas la manière dont il a évolué. Je ne sais pas si Madame Berger partage ce diagnostic. Nous, on pense effectivement que le CICE, le CIR, etc., ont été des erreurs monumentales et des cadeaux faits aux grosses entreprises du CAC 40. On a fait un petit calcul rapide, avec les 41 milliards d'euros par an, on peut payer 2,5 millions d'emplois à 1850 euros par mois, donc on pourrait créer 2,5 millions d'emplois assez bien payés, puisque nettement au-dessus du SMIC. Si on en retire la part des petites et moyennes entreprises qu'elles ont touchées, on peut encore en créer 1 million. Donc c'était le million promis par Monsieur Gattaz. Nous, on pense que c'était possible de le faire avec l'argent directement.
Léo Walter, Jean-Luc Mélenchon a annoncé dans son programme la création de la possible création de 3,5 millions d'emplois grâce à la transition écologique.
Tout à fait.
Comment peut-on faire ça ?
J'allais y venir. La difficulté de défendre l'avenir en commun sur le problème de l'emploi, par exemple, c'est quand on tire un fil du programme, on est obligé de tirer tous les autres. Parce qu'il y a un lien avec la réforme fiscale, il y a un lien avec la réforme des retraites, il y a un lien, effectivement, un lien énorme avec la transition écologique. Nous, on fait le pari d'une transition écologique avec une planification, c'est-à-dire une réflexion sur les 5 ans du quinquennat qui sera peut-être plus court si d'ici là la constituante instaure une 6e république, mais on espère bien être présent dans cette 6e république également. Nous, on propose un choc d'investissement de 100 milliards d'euros, effectivement, dont plus de la moitié sera consacrée à la transition écologique. Et alors, je ne suis pas économiste, je n'ai pas de connaissances très pointues dans ce domaine, mais je vous renvoie à une émission qui a quand même duré 5h30 et qui est disponible sur YouTube, où on fait le chiffrage très clairement de toutes ces mesures-là. Mais nous, on pense effectivement qu'il faut réorienter massivement le système de production pour passer à une production écologique, une production soutenable, une production locale, une production bio. Et là, j'en viens à nos territoires, le 04, le 05. Nous, on pense qu'il faut absolument relocaliser les services et puis offrir une qualité de vie aux citoyens, qualité de vie qui se transcrit forcément par de nouveaux emplois, puisqu'il faudra développer les petites exploitations agricoles contre les grosses, qu'il faudra permettre à ces petits exploitants agricoles de fonctionner, d'embaucher.
Mais concrètement, combien ça pourrait créer d'emplois localement ?
Alors localement, je ne peux pas vous répondre très sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Nous, on compte sur 300 000 emplois dans l'agriculture biologique, par exemple, sur les premières années du quinquennat au niveau national. Mais je pense que notre département, enfin je parle pour le 04, est assez en pointe au niveau de l'agriculture biologique, donc je pense que ça se verrait assez vite, effectivement. Il y a un autre aspect, qui est la titularisation des précaires dans la fonction publique, qui pourrait toucher aussi beaucoup de monde, en particulier dans l'éducation nationale ou dans une ville comme Digne. Nous, on est pour que le CDI redevienne la norme et non pas l'exception. On est aussi pour une réduction du temps de travail, c'est-à-dire un retour aux 35 heures réelles.
On ne va pas aller plus loin dans le...
C'était juste pour montrer, je m'arrêterai là-dessus.
J'entends bien, mais je ne voudrais pas qu'on aille trop dans le programmatique, parce que l'idée étant d'être concret sur ce que ça peut avoir comme intérêt sur nos territoires, et là on revient sur le programmatique que tout le monde peut retrouver, et on va poursuivre notre tour de table.
Est-ce qu'on aurait un droit de réponse rapide?
Oui.
Oui, moi je veux juste savoir comment Monsieur Mélenchon, dont la cible principale est les patrons, va donner confiance à tous ces patrons pour qu'ils investissent, qu'ils embauchent sur le territoire national, parce que ça me paraît extrêmement difficile. Son idole, c'est Robespierre, il est en train de couper la tête à tous les patrons, donc voilà. Et après, on va leur demander d'embaucher. De la même façon, je voudrais demander au Front National...
S'il vous plaît, on laisse finir, Madame Martinez, qu'on entende bien.
...qui chipote sur 2 points de TVA... comment ils financeront la sortie de l'Europe et de l'euro, dont le coût est estimé à 180 milliards d'euros. Et pareil à M. Mélenchon.
Gardez votre question un instant, Mme Martinez, on va la poser un instant à M. Navarane. Un élément de réponse rapidement.
Oui, juste très rapidement, si je pouvais, je donnerais la parole à un camarade insoumis qui est dans la salle et qui est patron. Nous, on n'est absolument pas contre les patrons.
Mais on va vous laisser répondre.
On est effectivement contre les grands patrons du CAC 40 et contre la manière dont ils confisquent le travail des Français et le fruit du travail.
Et vous ne craignez pas de perdre
Mais par contre, On est pour une baisse du taux d'imposition sur les PME de 33 à 25%. On est pour l'intégration du RSI dans le régime général de la sécurité sociale. Et on est pour une politique du carnet de commandes, c'est-à-dire de permettre par un choc d'investissement à tous les petits patrons, à tous les patrons et les entrepreneurs de remplir leur carnet de commandes et donc d'employer de nouveaux employés. Donc on n'est absolument pas contre les patrons. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais ce n'est pas vrai.
Alors, s'il vous plaît. On n'est pas dans un meeting. Je ne vous demanderai pas trop applaudir. Vous pouvez réagir, mais les applaudissements... Je m'excuse, on n'est pas dans un meeting, c'est un débat. On vous laisse réagir évidemment comme vous le souhaitez, mais les applaudissements plutôt pas. Marianne Bauduit-Morel, vous vouliez réagir pour Debout la France là aussi. Je vous demande rapidement parce que les temps de parole sont comptés.
Oui, et mais je ne pense pas avoir réellement abusé de mon temps de parole. Ceci étant, donc, je m'aperçois effectivement que M. Mélenchon, chose qu'a d'ailleurs découverte en direct son porte-parole, Mme Autain, je comprends pourquoi. Effectivement, il est pour l'Alliance bolivarienne. Donc on retrouve effectivement le bon plan et le bon programme communiste des années 50. Mais qui va payer ? Les mêmes. Donc en fait, nous, ce que l'on veut, c'est la valeur travail. On ne rase pas gratis et il faut bien trouver cet argent. Alors quand j'entends parler d'un côté de hausse de TVA de 2 points, quand j'entends parler, parce que M. Macron a quand même persisté et signé dans une CSG de 1,7%, et j'avertis tous les retraités des conséquences délétères que ça va pouvoir avoir sur son pouvoir d'achat. Alors, attendez, c'est véritablement retraité. Donc.
Oui, on va pas. Vous avez déjà eu votre temps de parole sur cette question. On va pas vous redonner 2 minutes là-dessus, je suis désolé, je vous laisse réagir.
Je me permettais parce qu'il y avait eu des précisions apportées, apporte une.
Oui, précision faite. Amaury Navarane, on vous pose la question et peut-être tout d'abord répondre à Henriette Martinez qui vous a interpellé sur ce sujet.
22 milliards d'euros qu'on donne à l'Union européenne tous les ans, 13 milliards d'euros qu'on récupère, c'est-à-dire une balance déficitaire de 9 milliards d'euros. Vous en faites le cadeau au reste de l'Europe. Nous, on pense que ça peut être utile aux Françaises et aux Français.
Et à nos retraités.
Alors, moi, je crois il y a de très bonnes choses qui ont été dites, mais si on ne se protège pas, ça parle à tout le monde, je crois, la protection. Et tous les pays du monde se protègent, sauf nous, sauf les pays de l'Union européenne. Et on serait le seul espace dans lequel la seule coopération qui existerait, c'est de s'ouvrir au vent du capitalisme, au vent de la finance, et donc avec les travailleurs détachés, on l'a dit, mais aussi avec les traités de libre-échange. Je suis ravi d'avoir un parlementaire qui est contre les traités de libre-échange quand son candidat en fait un leitmotiv. C'est-à-dire, c'est lui, son grand projet, c'est,
ça, c'est vrai.
Ouvrons les portes et puis laissons venir tous les produits. Il faut savoir tout d'abord se protéger. Le politique ne crée pas d'emploi. L'emploi subventionné, en fait, c'est l'impôt qui paye eh bien, les conséquences d'une baisse du chômage.
Monsieur Navarane, pour en revenir au côté local...
Enfin, donc, le politique ne créant pas d'emploi, il faut favoriser tout simplement l'entreprise. Et bien évidemment, la PME-PMI, qui est la structure qui crée l'emploi. Alors, pour cela, il faut d'abord effectivement protéger et créer un patriotisme économique. Les collectivités françaises sont les seules, là aussi dans le monde, à qui on interdit la commande de produits français, ou plutôt à qui on laisse la commande de produits français, mais mise en concurrence sur l'espace européen. Alors par exemple, là-dessus, eh bien, plutôt que de subventionner les entreprises françaises qui perdent de l'argent parce qu'on achète ailleurs les produits dans les collectivités, si on achetait directement, il n'y aurait plus besoin de subventionner les sociétés. Il faut également contraindre les banques. C'est-à-dire que le pouvoir politique a imposé d'abord à l'État d'emprunter aux banques privées, et puis après aux banques privées de décider à qui est-ce qu'on prêtait. Et finalement, aujourd'hui, toutes les PME-PMI, en tout cas énormément, ont un carnet de commandes plein et ne peuvent anticiper ces commandes-là parce qu'on ne prête pas ou on ne prête pas assez. Là, il faut mobiliser l'épargne des Français et notamment permettre à ce que cette épargne soit investie dans les fonds destinés au développement des PME-PMI. Et puis, il y a une dernière mesure, je crois, qui est importante. Je vais peut-être en choquer quelques-uns ici, mais... En France, il n'y a plus de représentation syndicale. Le monde du travail, aujourd'hui, est complètement atomisé par des centrales syndicales qui, je le crains, ne défendent plus réellement les travailleurs. Eh bien là, il faut réellement que les intérêts, j'allais dire, de tout un chacun soient défendus. Et pour ça, il faut là aussi...
Les syndicats seraient donc le mal du développement économique ?
Non, pas du tout. Mais si vous êtes un journaliste honnête, et je crois que vous l'êtes, c'est quand même le 4e point que j'aborde. Vous ne pouvez pas résumer les 4 points juste sur le point du syndicalisme.
Non, mais
il y a un réel problème.
Vous l'avez dit vous-même, je risque de choquer, donc je me permets d'aller au bout de votre réflexion. On parlait d'économie et de développement économique, et vous nous parlez de syndicalisme,
oui,
qui serait donc un frein au développement économique.
À partir du moment où le syndicat ne défend plus le travail réel et l'économie réelle, et s'arrange avec un certain nombre d'intérêts, eh bien, je crois qu'effectivement, il n'y a plus de pression saine sur le politique.
Merci.
Pour notamment des conditions et
moi,
des circonstances de travail
favorables.
Moi, je veux
bien qu'il clarifie sa position là-dessus, parce que j'ai pas très bien compris ce que faisaient les syndicats.
Alors, la question est posée par les Walter de la France Insoumise. Question liée
si
à
on,
quoi
si on veut créer de la richesse, il faut que le travail soit récompensé. Et je ne crois pas aujourd'hui que les syndicats sont très caricaturaux, et je regrette, sont, à mon avis, totalement archaïques, et défendre des intérêts plus particuliers et plus ceux des centrales syndicales que en soi eh bien de tous les Françaises et de tous les Français. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu de travailleurs syndiqués en France.
Je vous remercie de cette clarification.
Clarification faite. Alors, on a entendu tout à l'heure parler de Magic Macron et la personne qui avait engagé...
Puis-je répondre en quelques mots à Maureen Amaron?
Ah, bien sûr, je vous en prie, Joël Giraud, on parlera de Magic Macron.
Non,
après, alors,
non mais simplement, sur le problème des traités internationaux, CETA, TAFTA et autres, tout ça n'est pas la faute à l'Europe. Tout ça est la faute à la France, qui est un des rares pays en Europe à ne pas soumettre les mandats de négociation de ces traités, c'est-à-dire le mandat initial, devant les parlementaires.
Et quand on le fait, vous le trahissez comme le référendum de 2005, M. Giraud. Vous avez voté le traité de Lisbonne.
Deuxième sujet, c'est un des rares pays.
C'est un des rares pays. Je ne peux pas te laisser dire ça.
Ça n'a pas été débattu.
Attends, il a été débattu en hémicycle, je l'ai amendé. Le
mandat de négociation.
Donc, s'il te plaît, ne dis pas que ce n'est pas négocié. Ce n'est pas vrai.
Non.
C'est une fausse information.
Le mandat de négociation du CETA n'a pas été présenté.
Le
je suis désolé.
CETA a été discuté et négocié.
Je viens de dire que le mandat de négociation du CETA.
Cela dit, quand on nous demande notre avis, on ne le respecte pas.
On ne va pas trop s'éloigner sur le CETA.
Vous les avez signés, ces accords.
On ne va pas trop s'éloigner parce que là, le CETA et le TAFTA nous écartent.
Vous l'avez signé.
Rien de Bonny-Morel, le CETA et le TAFTA nous écartent un tout petit peu de l'économie dont on parlait à l'instant. Et
ah bon,
on n'aura pas le temps d'aller.
Les traités de libre-échange,
pardonnez-moi, et on n'aura pas le temps d'aller sur ce sujet pour l'instant. Je comprends que ça chagrine certains d'entre vous, mais c'est un sujet complexe. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait les cartes en main pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette discussion-là. Ça a été largement débattu et dénoncé sur le fait que tout n'était pas transparent. Donc on n'ira pas sur ce terrain-là. J'en suis désolé. Et on va laisser la parole à Karine Berger.
Alors, je vais revenir à la question initiale. Trois exemples très concrets du programme de Benoît Hamon qui ont un impact direct sur nos départements. Benoît Hamon propose d'élargir considérablement la garantie jeune. Si vous allez à la mission jeune de Gap ou d'ailleurs d'autres points de nos départements, ça marche. C'est-à-dire la garantie jeune, c'est un contrat passé avec chaque jeune qui est hors système pour soit avoir une formation, soit aller vers le travail, contre petite rémunération. Ça, c'est quelque chose, quand on discute avec les responsables du terrain, ça marche. Benoît Hamon propose de généraliser ça. Donc, d'un petit nombre de personnes concernées sur nos départements, on pourrait multiplier par 4 ou 5, voire plus, le nombre de personnes suivies par la mission jeune et donc allant vers le travail. Deuxième exemple. La généralisation et l'agrandissement des crédits de la Banque publique d'investissement. Là aussi, il faut être très très concret. Je vais prendre deux exemples d'entreprises de chez nous. Netcell et Raven ou Béringer à Talar. Les deux font un travail fantastique. À la limite, ils pourraient presque se débrouiller tout seuls, seulement ils sont brillants. Mais enfin, quand même, quand ils me disent « si vous mettez un peu plus d'argent via la BPI ou plus d'accompagnement à l'exportation, moi j'augmente mon chiffre d'affaires et j'augmente mes emplois ». Bon, les uns et les autres ont déjà quand même réussi à créer une bonne dizaine d'emplois rien qu'en 2 ans sur nos territoires, chacun. Mais imaginez qu'on fasse pas plus 10, mais plus 20 ou plus 30 grâce à ces nouveaux moyens d'investissement. Ça, c'est le programme de Benoît Hamon. Aller directement sur ce qui compte sur le terrain et ce qui compte chez nous. Troisième exemple. Et là, je vais me fâcher avec certains collègues. Eh ben, tant pis. Les dotations aux collectivités locales. Monsieur Fillon propose moins 15 milliards. Monsieur Macron propose moins 20 milliards. Moins 20 milliards. Je vous le dis très clairement, si ces programmes passent, le BTP, c'est division par 2 des emplois dans nos départements. Les travaux publics, c'est terminé. Moins 20 milliards
pas moins 20 milliards.
Ben, c'est le responsable de En Marche. C'est le responsable de En Marche de 0,5 qui l'a expliqué chez une.
Emmanuel Macron
chez un local,
a demandé aux collectivités territoriales de faire 10 milliards d'économies, ce qui est complètement différent. Ce n'est pas les dotations qui diminuent.
20 milliards.
Ça ne sont pas les dotations. Expliquez-moi comment,
locales.
À Marseille, on peut entretenir un parc de véhicules de 500 voitures privées avec tous des pneus neige. Il faut peut-être que certaines collectivités balayent devant leurs portes.
Clairement, la proposition de Benoît Hamon, c'est. On ne bouge plus les dotations aux collectivités locales de manière à ce que les travaux des investissements publics des collectivités locales, et chez nous c'est énorme, c'est à peu près 15% de l'emploi dans nos départements, arrête de baisser. Le moins 30% qui a été subi au cours des dernières années, on l'arrête. Ces trois exemples extrêmement concrets, alors je ne suis pas capable de vous donner en dizaines d'emplois ce que ça signifie, mais au moins je sais que ça, sur chacune de ces mesures, ça crée de l'emploi. Et je vais juste finir sur un point. Je ne crois pas que la suppression de l'ISF, qui sont proposées également par M. Fillon et M. Macron, créeront des emplois dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Et je ne crois pas non plus qu'obliger les gens, quelle que soit la proposition, à accepter un travail au bout de la deuxième proposition avec la menace de perdre toutes les allocations chômage, soit une mesure qui permette de créer des emplois dans notre département. Ces programmes sont des programmes de droite qui ne connaissent rien, absolument rien, à la réalité du marché du travail sur nos territoires. Et je pense sincèrement que si on les mettait en place, ça serait la misère et la perte de confiance de toute une partie des gens qui travaillent chez nous.
Et la suite du grand débat, ce sera dans un instant. Restez bien sûr avec nous. Grand débat Alpe 1, le Dauphiné, la Provence, Haute-Provence Info, juste après une courte pause. À tout de suite.